Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid demain à 21h sur Canal Plus Foot et Dortmund, Paris SG mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Grand moment à venir dans l'intégrale Rio 2016, la séance de tir au but de cette finale du foot masculin, cette finale olympique. On va libérer Isabelle Severino. Un grand merci Isa et à très vite. Bonne soirée à toi. Céline, tu peux rester avec nous.
Je vais rester quand même voir les tirs au but parce que je suis à bout de nerfs.
Exactement. Elle est dans notre studio là à côté du parc olympique. On a le retour image de ce qui se passe au Maracana. François, le public ne tient plus en place. La séance de tir au but partout à l'issue de la prolongation.
Le Maracana qui retient son souffle, Rio de Janeiro retient son souffle, Sao Paulo retient son souffle, Curitiba retient son souffle, Porto Alegre retient son souffle, Manaus et tout le Brésil est en train de regarder ce Maracana parce que nous sommes dans la finale du tournoi olympique. Le Brésil face à l'Allemagne, 120 minutes qui n'ont pas réussi à départager les Brésiliens de Neymar et les Allemands de Maier. Ces deux-là ont marqué les deux uniques buts de la rencontre. Un but partout à l'issue du temps réglementaire, un but partout à l'issue de la prolongation. Neymar avait ouvert le score sur un coup franc direct. Maximilian Maier, le joueur de Schalke, le capitaine de cette équipe allemande, avait égalisé en deuxième période. Les encouragements de Neymar, de Marquinhos, d'Alcantara pour la séance de tir au but. Ce sera donc des face-à-face entre les tireurs allemands et le gardien de l'Atlético Paranense, Weverton. Et de l'autre côté, les joueurs brésiliens auront face à eux le gardien de Cologne, Timo Horn. Le gardien Timo Horn et son maillot rouge face à lui, le vert fluo de Weverton pour ce qui est des deux gardiens. Et la séance de tir au but qui va débuter dans quelques instants maintenant avec les scènes habituelles, hein, Loïc. Après 120 minutes, les crampes, on soigne les petits bobos, on récupère, on s'hydrate beaucoup. Il y a énormément d'humidité dans ce Maracana, il a beaucoup plu. Le premier face à face sera pour Matthias Ginter, le joueur du Borussia Dortmund, face à lui le gardien de l'Atlético Paranense, Weverton, et son maître 86. T'as vu, j'ai même l'accent, hein, depuis 120
tableau,
minutes,
hein, Brésil, Allemagne, avec
depuis 120 tirs. Minutes dans ce Maracana, je peux vous dire qu'on a appris à parler brésilien et la discussion s'installe entre l'arbitre de cette rencontre et les deux gardiens pour rappeler les règles, rappeler comment ça va se passer. C'est moi qui décide, après c'est vous qui décidez du sort du match, mais c'est moi qui siffle la séance de tir au but avec le salut entre les deux gardiens de cette finale du tournoi olympique et l'arbitre de cette rencontre qui va maintenant se diriger vers le premier tireur. Brasil au Brasil, Matthias Ginter, le joueur allemand face au gardien brésilien Weverton. Dans l'Euro central, les joueurs brésiliens qui regardent de loin et qui sont qui se prennent par la main, par l'épaule, par le bras avec le duel remporté par Matthias Ginter alors que Timo Horn était parti, pardon, Weverton était parti du bon côté. Il l'a même touché du haut des gants même sur ce tir au but là, le gardien brésilien. 1-0 pour l'Allemagne dans cette séance de tir au but face au Brésil.
On rappelle que le Brésil a déjà échoué à 3 reprises en finale olympique, en 84 perdu face à la France, en 88 perdu face à l'Union soviétique, en 2012 à Londres perdu face au Mexique. C'est le seul titre qui manque à la sélection.
Renato Augusto, le joueur de Pékin dans le championnat chinois, le joueur du Guan Beijing. Renato Augusto, quelle ambiance dans ce Maracana pour pousser les supporters brésiliens qui donnent de la voix. Et le duel donc entre Renato Augusto et son pied droit, la petite barbe, face à Timo Horn. Le sifflet de l'arbitre avec le Brésilien qui s'élance, la frappe et c'est dedans alors qu'il était parti du bon côté. Mais Renato Augusto qui est en train de s'embrasser les biceps pour ce qui est l'égalisation dans cette séance de tir au but. Un partout entre le Brésil et l'Allemagne.
Ah, c'est chaud, mais en tout cas les tireurs qui ont un sang-froid là pour l'instant depuis le début de la partie, les gardiens qui partent du bon côté mais qui pour l'instant ne touchent pas le ballon. Deuxième tireur allemand, François.
Au point, j'ai envie de dire que Weverton aurait gagné face à Timor. Il avait touché du bout du gant sur sur ce premier tireur, alors que là, deuxième face à face pour cette séance de tir au but. Serge Gnabry côté allemand face donc à Wolverhampton et son maillot vert. Gnabry qui a été très actif, très remuant, le joueur d'Arsenal. Serge Gnabry et son numéro 17, le face à face pour l'allemand. Oh, elle l'a touché, ça passe en dessous du ventre du gardien brésilien Wolverhampton. 2-1 dans cette séance de tir au but. 2-1 dans cette séance de tir au but. Et les yeux, on est en train de voir le ralenti, il a failli l'arrêter, les yeux exorbités comme si les yeux du gardien brésilien étaient en train d'entraîner le ballon tel un aimant dans ses gants. Ça passe sous le ventre du gardien brésilien. Tension extrême dans ce Maracanã. 2-1 pour cette séance de tir au but, mais le deuxième tireur brésilien est en train de se présenter et c'est le joueur du Paris Saint-Germain, Marquinhos, le joueur du Paris Saint-Germain qui évidemment pose ce ballon sur le point de pénalty. Il n'a que le regard vers le ballon. Marquinhos qui s'élance, le face-à-face face à Timo Horn. Marquinhos et son pied droit, c'est dedans à contre-pied de partout.
Magnifique, le contre-pied de Marquinhos.
Et il arrange la foule, et il arrange le Maracanã, parce que peut-être qu'il va falloir encore un petit peu plus pousser, mettre la pression maintenant sur le tireur allemand. Et en face de lui, il aura Wolverhampton qui est parti deux fois du bon côté et qui deux fois sur cette séance de tir au but, après les deux tireurs allemands, a touché deux fois le ballon, mais c'est dedans de partout entre le Brésil et l'Allemagne.
Juste troisième petite tireur. Réaction de Lutz, hashtag RMC Live, les Brésiliens supporteront-ils la pression du peuple face aux Allemands? Le troisième tireur allemand, François.
Julian Brandt est son numéro 11, le joueur du Bayer Leverkusen, pied droit, il prend pas beaucoup d'élan. Wolverhampton qui est en train de s'installer sur sa ligne de but, il se tape dans les gants, le face-à-face entre l'Allemand, et cette fois-ci c'est à contre-pied. Wolverhampton qui ne peut pas s'emparer de ce ballon. 3-2 dans cette séance de tir au but, le troisième tireur brésilien dans un instant.
3-2 pour les Allemands, effectivement beaucoup de réussite hein, chez les tireurs, c'est extrêmement bien frappé. On rappelle que la plupart de ces joueurs ont moins de 23 ans, donc énorme pression pour eux. Peut-être pour la plupart n'ont pas gagné de titre international encore en sélection.
Julian Brandt, c'est tout simplement le plus jeune joueur de cette finale puisqu'il a à peine 20 ans. Il est né en mai 96. Le tireur brésilien, le troisième, c'est le dernier rentrant, Rafael Alcantara, le joueur du Barça, et son pied gauche face à Timo Horn. Il s'élance, contre-pied parfait à terre.
3-3.
L'égalisation dans cette séance de tir au but. 3-3. Et les hurrahs du Maracanã avec les maillots jaune et vert. Le peuple brésilien qui retient son souffle. Les supporters de la Seleção dans ce Maracanã qui retiennent leur respiration avec le quatrième tireur allemand dans cette séance de tir au but. On rappelle, 3 tireurs de chaque côté et 3 buts marqués à chaque fois. 100% pour les tireurs, alors que c'est Niklas Schüle, le joueur d'Offenheim. Quatrième tireur, Schüle face à Wolverhampton. Schüle qui s'élance, qui prend beaucoup d'élan. La frappe, il l'a touché, mais ça rentre quand même pour le joueur allemand qui permet donc à cette Mannschaft de nouveau mettre la pression sur le tireur brésilien. 4 tireurs allemands, 4 buts, 3 tireurs brésiliens, 3 buts, et donc l'occasion pour le Brésil d'égaliser dans cette séance de tir au but, ou pour Timo Horn de se rapprocher un petit peu plus pour l'Allemagne.
Et toujours pas de Neymar au niveau des tireurs brésiliens hein.
Non, exactement, c'est Luan, le joueur du Grêmio, qui a saisi ce ballon. Le longiligne et très fort joueur Luan, et son numéro 7 face à Timo Horn. Luan, deux petits pas d'élan pour ce qui est de Luan, contre-pied parfait. Il y a énormément de fatigue également hein, du côté des gardiens. Le point serré, il arrange aussi la foule, et le Maracanã qui se réveille.
4
parce
partout.
Que tout le monde est soulagé. 4 partout, le cinquième et dernier tireur pour l'Allemagne, et derrière pour le Brésil. C'était un contre-pied parfait pour Luan. La célébration sur le banc de touche de Rogério Micalé, l'entraîneur de cette sélection brésilienne dans ce tournoi olympique. Et grosse, très grosse pression, la bronca sur les épaules de Nils Petersen, le joueur de Fribourg. Le cinquième et dernier tireur allemand face à Louis Wolverhampton. Les joueurs brésiliens dans le rond central, à genoux, en train de prier, en train de retenir leur souffle. Attention pour la prise d'élan. Et c'est arrêté ! L'arrêt de Wolverhampton ! Mais c'est pas terminé. C'est pas terminé parce qu'il y aura un cinquième tireur. Wolverhampton qui arrête ce tir au but de Nils Petersen. Et le Maracanã qui exulte, mais qui va retenir encore un petit peu son souffle. Parce que le cinquième
tireur, bien sûr, la belle histoire.
Parce que le cinquième tireur va se présenter face à Timo Horn. Je vous l'ai dit, on a vu le ralenti avec les yeux exorbités. Il a attiré ce ballon comme un aimant dans ses mains. L'arrêt de Weverton. Ça n'est pas Neymar, c'est Neymar, le capitaine. Ça n'est pas Neymar, c'est un dieu vivant. S'il met ce tir au but, on ne l'appellera plus Neymar Junior. On l'appellera tout simplement Dieu. Neymar face à Timo Horn pour l'histoire, pour venger la demi-finale d'il y a deux ans. La Coupe du Monde est peut-être derrière. Le premier titre olympique au bout du pied de Neymar. Le joueur du Barça qui regarde dans les yeux le gardien allemand. Il s'élance. Le joueur du Barça, la frappe. Et goal, 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 goal. Neymar pour le titre olympique de la Seleção. Brasil, Brasil. Les pleurs de Neymar. Les pleurs de Wallace. Les pleurs du Brésil. Parce que le Brésil est champion olympique du football dans El Maracanã.
Il est en feu ce stade de Rio. Le Maracanã pour célébrer ses héros brésiliens. Jamais il n'avait été sacré champion olympique. D'émotion, de joie, de scène de joie dans les tribunes au sein du staff brésilien. Ils et Neymar qui est au sol.
Ils sont par terre.
Ils pleurent tous.
Ils sont KO de joie, ils sont KO d'émotion, ils sont KO de fatigue. Mais ils sont champions olympiques, les Brésiliens, avec les pleurs sur le banc de Rodrigo Micalé. Et là, je peux vous dire qu'on ne va pas dormir dans les rues de Rio de Janeiro. On ne va pas dormir dans tout un pays. Le Brésil n'est plus maudit dans ses finales de Jeux Olympiques. Le Brésil a remporté sa finale dans son Maracanã. Et Neymar qui pleure, Neymar qui se cache, mais Neymar qui est champion olympique, Neymar le capitaine qui avait marqué un coup franc exceptionnel en première période, Neymar qui a eu les coronnes d'attirer son cinquième et dernier tir au but, et Neymar qui offre non pas la Coupe du Monde, mais qui offre un titre olympique à cette équipe brésilienne. Weverton, hein, on l'oublie pas, qui a arrêté ce tir au but juste avant le tir au but décisif de Neymar. Neymar qui se cache derrière son maillot jaune, il pleure, il danse, il chante dans les tribunes, et à l'opposé, ça contraste bien évidemment avec d'autres larmes de tristesse, de déception. Neymar ne s'en remet pas.
Il n'arrive pas, il est au sol.
Il a essayé de se relever, il était à genoux, il s'est caché dans son maillot, et de nouveau, il est au sol, dos à la pelouse, il se cache avec ses mains et il pleure de joie, de bonheur, d'intense fatigue, d'intense émotion, d'intense pression, d'intense stress, parce que tout un pays était derrière cette sélection olympique brésilienne, champion olympique de football. Quelle histoire dans son Maracanã.
Et ça y est, le palmarès des Brésiliens est tout à fait complet. C'était le seul titre qui leur manquait. Merci beaucoup à Céline Giraud. Merci François Giuseppi. On va laisser la main à Gilbert Bribois depuis le stade olympique de Rio pour la nuit de l'intégrale Rio 2016. Gilbert.
Exactement. Alors qu'ici au stade olympique, je pense que tout le monde écoutait François Giuseppi, hein, tous les Brésiliens, puisqu'ils ont tous explosé de joie quand François a fait un goal digne d'un commentateur brésilien tout à l'heure. Donc et Nicolas Jamin et Marie-Zéven Gépé sont là bien sûr pour cette nuit olympique ici, l'athlétisme pour sa dernière grande soirée, et puis il y aura le taekwondo également dans quelques instants puisqu'il reste des chances de médaille de bronze pour nos deux combattants en course aujourd'hui. C'est parti pour la nuit olympique avec également un Olympic Night Quiz un peu spécial ce soir, c'est une petite surprise. À tout à l'heure.
RMC Intégrale Rio 2016, Gilbert Bribois.
Boa noite, Brasil. Brasil!
L'intégrale Rio 2016 continue en direct du stade olympique, ici le stade où se déroulent les épreuves d'athlétisme pour la dernière grande soirée d'athlètes avec Marie-Zéven Gépé et Nicolas Jamin. Bonsoir.
Bonsoir.
Salut à tous.
Alors, athlétisme et taekwondo au programme ce soir, car dans deux minutes maintenant on va aller sur zone retrouver Pierre Ikten, car il y a encore des chances de médaille ce soir pour nos deux combattants qui sont en lice aujourd'hui, qui ont été éliminés prématurément, mais qui grâce au repêchage peuvent encore décrocher le bronze. On aura encore des grandes finales ce soir, mais pas de Français, messieurs dames.
Pas de Français, aucun Français, mais 6 finales, et alors deux qui vont attirer particulièrement notre attention, c'est la finale du 800 mètres féminin. Est-ce que Caster Semenya va remporter pour la première fois un titre olympique, elle la championne du monde 2009, et la finale du 5000 mètres Maryse avec un homme qui cherche la quadruple consécration, double à Londres, vainqueur sur 10 000, Mo Farah.
Et oui, c'est l'un des très grands héros de ces 8 dernières années avec Usain Bolt. Bon, évidemment, effacé par le dieu maintenant du stade de Usain Bolt, parce que 3e campagne olympique réussie pour le Jamaïcain, comme vous le savez. Mais finalement, Mo Farah pourrait être son égal. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite, parce que c'est un personnage qui est particulièrement magique à voir courir.
On va bien sûr passer en revue toutes ces finales dans quelques minutes, mais allons tout de suite au taekwondo. Retrouvez Pierrick Ten avec Mbar Ndiaye qui monte sur le tapis. Pierrick,
c'est déjà mal parti pour le Français. Oula. Qui vient juste de concéder un point. Il est mené 1-0. On rappelle les données du problème. Mbar Ndiaye qui a perdu au premier tour de ce tournoi de taekwondo. Il a été repêché tout simplement parce que son adversaire est allé jusqu'en finale. S'il veut avoir une chance de disputer un combat pour la médaille de bronze, il doit absolument s'imposer contre ce Brésilien Meikon Siqueira. Voilà, donc je vous le disais, il est mené, il y a 1 minute 30 encore à jouer dans cette reprise. Il y aura 3 reprises. On est à la moitié de cette reprise. Il faut absolument qu'Mbar Ndiaye marque s'il souhaite, pourquoi pas, avoir une chance de disputer un combat pour une médaille de bronze.
Voilà, donc 2 combats avant la médaille de bronze pour Mbar Ndiaye, et ce sera la même chose pour Gladys Epang qui affrontera une Népalaise dans quelques minutes. Juste pour l'anecdote, ici au stade olympique, et c'est sans doute la première fois, l'hymne du Tadjikistan retentit, et bien sûr en l'honneur de Dilshod Nazarov, le champion olympique du lancer du marteau. Voilà, le Tadjikistan plus connu pour ses judokas ou ses lutteurs que pour ses lanceurs de marteau, mais voilà, ça y est, c'est lui le champion olympique.
Deuxième fois pour le Brésilien.
Note pour l'Olympic Quiz, hein.
Voilà, capitale Douchambé, tu peux noter.
L'argent pour Tikan également. Hein.
Ouais. Allez, Pierrick, qu'est-ce que ça donne pour Ndiaye ?
Ah, ça s'arrange pas. Un deuxième point pour le Brésilien qui a touché une nouvelle fois le Français. Le Français plastron rouge, on le répète, ils doivent toucher la tête, ils doivent toucher le plastron pour marquer des points. Il reste 45 secondes dans cette première reprise et on espère de voir Mbar Ndiaye s'imposer dans ce combat. Finalement, il n'aura disputé qu'un match ce matin, une défaite, et là, c'est son deuxième combat de la journée. À attendre toute la journée les repêchages, de savoir un petit peu à quelle sauce il allait être mangé. On est en attente, hein. C'est vrai que c'est un sport d'attente, hein, le taekwondo. On s'observe, on attend, on change de garde pour tenter avec les coups de pied d'aller chercher la tête. Ça marque plus de points évidemment qu'au plastron. Là, une attaque de Français qui tente d'aller chercher le plastron de son adversaire, mais c'est bien paré, bien arrêté par le Brésilien Meikon Siqueira. Il reste une quinzaine de secondes, 17 secondes exactement, le temps qui est arrêté à l'instant même par l'arbitre. On va recommencer, on est reparti pour les 10 dernières secondes de cette première reprise. Ça serait bien qu'il marque, le Français, s'il souhaite, pourquoi pas.
Bon, rappelons qu'il y a 3 reprises.
Il y a 3 reprises. Il restera exactement, Gilbert, il restera 2 reprises dans quelques instants, puisque là, on attend tout simplement la fin de cette première reprise, à l'instant même, arrêtée par l'arbitre, le Français qui est mené 2-0.
Je précise, pour faire un petit point d'ailleurs sur les médailles dans ces épreuves de taekwondo, hier on a eu une médaille d'or pour un Ivoirien qui c'est une première, a complètement fait chavirer la Côte d'Ivoire, et ce soir on a un Nigérien en finale face à un Azeri. Donc voilà, des pays africains qui brillent dans cette épreuve, dans ce sport qu'est le taekwondo. Donc il y a des résultats qui sont assez étonnants. Voilà, donc ce soir c'est peut-être
tu peux rajouter une marocaine aussi pour la conquête de la médaille de bronze en plus de 67 kilos.
Voilà. Et puis il y a eu un double champion du monde malien également.
Un Gabonais également, qui a été éliminé au premier tour aujourd'hui, qui est Anthony Obam, qui est une vraie star au Gabon.
Tout à fait.
Protégé d'Omar Bongo, enfin de son fils, du fils Bongo.
Ali,
exactement, parce qu'Omar Bongo est mort. Donc c'est Ali aujourd'hui.
Pardon, excusez-moi.
Bah oui. C'est le protégé d'Ali Bongo. Non mais c'est vrai, en plus Obam, c'est incroyable.
Il est élu démocratiquement, Ali.
Il y a eu des élections en tout cas. Allez, qu'est-ce que ça donne pour Mbar Ndiaye ?
On repart à l'instant même, Gilbert. Il reste 2 reprises de 2 minutes. Il faut que Mbar Ndiaye touche s'il souhaite s'imposer. Les deux athlètes qui ont tous les deux reçu un carton dans cette rencontre depuis le début de la première reprise. Et on le répète, le Français qui émet 2-0, qui tente un enchaînement là. Pourquoi pas du côté du plastron ? Ça n'a pas été touché, ça n'a pas été comptabilisé pour Mbar Ndiaye, le Brésilien, qui semble serein. Hein. Si ça a été accordé. Ça a été accordé pour Mbar Ndiaye, qui n'est plus mené que 2-1, alors qu'il reste 1 minute 15 dans cette deuxième reprise. Il est beaucoup plus offensif dans cette deuxième reprise, notre Français, le Brésilien qui est acculé. On attend d'ailleurs, il est sanctionné à l'instant même d'un carton, le Brésilien, 2-1. Il reste 1 minute 40, et on le répète également, Gilbert, juste après ce combat, c'est Gladys Epang qui est exactement dans le même cas de figure que Mbar Ndiaye. Si elle veut pouvoir combattre pour le bronze olympique, elle devra également, elle, s'imposer dans un match de repêchage. 1 minute 20 de combat encore à jouer dans cette deuxième reprise et on attend, on s'observe, on a les gardes, on change de garde, on envoie de temps en temps un coup de pied. Là c'est Mbah Ndiaye qui tente d'aller toucher la tête de son adversaire. On est dans la catégorie reine, hein, les poids lourds, les plus de 80 kilos, toujours 2-1 pour le Brésilien. Il a réduit la marque, le Français, dans cette reprise qui a finalement tourné pour le moment à son avantage, mais il est toujours derrière au score alors qu'il reste une minute encore à combattre dans cette reprise.
Très bien, espérons qu'il arrive à renverser la vapeur. Hier, nous avions le DTN du Taekwondo, Patrick Rousseau, qui lui disait que tous ces combattants ici avaient de vraies chances de podium. Il y a eu une médaille d'argent hier, une quatrième place avant-hier, et pourquoi pas deux médailles de bronze ce soir. Mais il faut maintenant qu'Mbah Ndiaye arrive à faire la différence, Pierrick.
Oui, pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. Hein. Toujours 2-1 pour le Brésilien, 35 secondes encore à disputer dans cette reprise, et les deux athlètes qui n'ont rien marqué depuis un petit moment déjà, même si là c'est le Brésilien qui tente d'aller chercher notre Français pour il ne marque pas, toujours 2-1 pour le Brésilien, 25 secondes à disputer encore. S'il ne marque pas là, le Français lui restera derrière 2 minutes, une dernière reprise pour pourquoi pas complètement inverser la tendance. Il a été mené toute la rencontre, il a été mené 2-0 d'abord à l'issue de la première reprise, là il est mené 2-1 alors qu'il reste 14 secondes à disputer. On le répète, s'il perd ce combat, c'est terminé, il n'y aura plus aucune chance de médaille pour lui. Pour lui, le taekwondo français masculin repartira sans médaille car il est le seul représentant des hommes pour cette équipe de France olympique ici à Rio. Et c'est fini. Fin de la deuxième reprise. Il restera 2 minutes dans quelques instants. 2-1 pour le Brésilien.
2-1 pour le Brésilien et une reprise donc pour renverser la tendance pour Mbah Ndiaye donc au taekwondo, alors qu'ici dans quelques minutes la première épreuve d'athlée sera l'épreuve du saut en hauteur féminin. Donc on va laisser la parole à Maryse, à Nico pendant là à peu près une heure, et puis elle va décrire tout
l'intégrale
ça.
L'intégrale Maryse.
L'intégrale saut en hauteur féminin à suivre dans quelques minutes. On vous explique tout après la troisième reprise de Mbah Ndiaye là qui doit absolument renverser la vapeur pour l'or.
Pour le bronze. Déjà pour le bronze.
C'est que pour le bronze. Hein.
Déjà, s'il gagne ce match-là, il n'aura pas encore.
Il se qualifie pour un combat. Exactement. Pour le bronze. Voilà.
Exactement, c'est une des particularités.
Excuse-moi, je me suis enflammé, Pierre.
Bah, c'est pas grave, hein. Tu sais, 1h20, on peut s'enflammer. Fin des JO, enflamme-toi. Hein. C'est la particularité du taekwondo. Quand on perd contre le futur finaliste, ils sont tous repêchés, les athlètes. Et c'est le cas de Mbah Ndiaye qui a disputé finalement très tôt un combat ce matin, puisqu'il a combattu, il me semble, autour de 11h, heure locale, et qu'il est 20h aujourd'hui. Il a fallu attendre toute la journée sans avoir l'assurance de savoir si oui ou non il allait pouvoir être repêché. C'est le cas, et c'est donc contre ce Brésilien Maicon Sequeira qui mène toujours 2-1 le Brésilien, alors qu'on est entré dans la toute dernière reprise. 1 minute 55 pour renverser la tendance. Le Brésilien qui avait reçu un carton jaune et un carton rouge, donc si Mbah Ndiaye venait à marquer, le combat tournerait à son avantage et il pourrait pourquoi pas aller combattre pour aller chercher une médaille de bronze. Mais pour l'instant, toujours 2-1 pour le Brésilien alors qu'il reste 1 minute 40 dans ce combat. L'arbitre qui redonne à l'instant même le coup d'envoi, enfin la reprise. 3-1 pour le Brésilien qui a touché à l'instant même. Ah, et donc ça se complique. Il va falloir maintenant faire un beau coup. Il va falloir marquer pourquoi pas 3 points ou 6 points pour renverser la tendance.
Tu peux rappeler, à 3 points c'est quand tu touches à la tête, hein.
C'est ça. Quand tu marques à la tête, c'est forcément plus difficile d'aller chercher la tête. Donc tu marques plus de points que quand tu touches le plastron, alors que à l'instant même on renvoie le Brésilien dans son camp, mais comme Sequeira qui doit voir son entraîneur qui lui rattache le plastron, car il ne faut pas qu'il soit délacé dans le dos, hein, les plastrons qui sont lacés dans le dos. Et le combat qui peut reprendre à l'instant même, 1 minute 20 dans cette troisième et dernière reprise. 1 minute 20 Mbah Ndiaye pour renverser la situation et pour avoir la chance, pourquoi pas, d'aller chercher une médaille de bronze, d'avoir un dernier combat à disputer dans ces Jeux Olympiques pour, pourquoi pas, aller chercher une deuxième médaille pour l'équipe de France de taekwondo. Juste derrière, on enchaînera avec Gladys Epang qui est opposée, tu le disais, à une Népalaise, Nisha Rawal. Mais pour l'instant, 1 minute encore et c'est toujours Maicon Sequeira qui domine Mbah Ndiaye. Enchaînement là pour l'instant d'Mbah Ndiaye qui tente pourquoi pas d'aller toucher son adversaire, mais c'est une belle esquive de Sequeira qui a évité les attaques du français, les coups de pied du français. Pour l'instant toujours 3-1 pour le Brésilien. On est entré dans la toute dernière minute. Il a touché, finalement ça a été comptabilisé. La comptabilité est longue à s'opérer ici entre le moment où un athlète touche et au moment où c'est comptabilisé. Donc 3-2 pour le Brésilien qui est toujours 4-2 maintenant pour le Brésilien.
Allez,
dommage. À chaque fois qu'il touche derrière, il est contré. Le Brésilien marque à son tour. Il reste une quarantaine de secondes. 4-2 pour le Brésilien. Il faut aller chercher la tête maintenant, Mbar, si tu veux aller avoir la chance d'aller disputer un dernier combat pour la médaille de bronze. 30 secondes pour aller tenter un coup. Ah, de toute façon, maintenant, il n'y a plus rien à craindre. Il faut y aller. Hein, il faut y aller. Il est mené de 2 points. S'il touche une fois, ça ne servira à rien. Alors, il faut y aller pour aller chercher la tête. Il reste 20 secondes. 20 secondes pour rêver d'un dernier combat olympique. Il est allé chercher la tête. Il a tenté, mais ça a été bien esquivé par Meikon Sikera qui va évidemment esquiver, va tenter de contrer le Français pour ne pas être touché. Il sait qu'il peut être touché une fois au plastron, que ça n'aura pas de conséquences car il est mené. Il mène 4-2 ce Brésilien. 10 secondes encore, 11 secondes encore dans ce combat, dans cette dernière reprise.
Ah, ça va être dur.
Ça va être compliqué. Il n'a pas été le toucher une seule fois à la tête. On voit pas comment en 5 secondes maintenant il pourrait trouver l'ouverture. L'arbitre qui arrête le combat pour l'instant. Il reste 5 secondes. 5 secondes, un dernier kick à envoyer, pourquoi pas, pour aller chercher la médaille de bronze. Mbar Ndiaye qui va. Non, finalement, c'est 5-2. C'est une victoire sans conteste, hein, finalement, du Brésilien qui a parfaitement dominé son sujet. C'est simple. Il a dominé tout le combat. Il y a juste la deuxième reprise qui a été à l'avantage du Français qui s'est imposé 1-0 dans cette deuxième reprise. Mais 5-2 au total. Il n'y aura pas de médaille pour le taekwondo masculin français. Une toute dernière chance, c'est dans quelques minutes, puisque Gladys Epang va être opposée à la népalaise Nishal Rawal.
On se retrouve dans quelques instants donc. En attendant, pour vous remettre à niveau, si vous avez raté cette journée, cette soirée olympique ici à Rio, voici les grands moments que vous avez loupés. C'était bien sûr sur RMC. Ensuite, on revient au taekwondo et à l'athlétisme.
Il n'y avait que 24 heures pour se remettre sur les rails pour aller combattre.
Maxime Beaumont toujours en tête. S'il ne s'écroule pas, il y aura une très bonne nouvelle dans quelques instants. On a passé la mi-course maintenant. Il est toujours devant Maxime Beaumont. Il fait la course en tête depuis le début de cette course. Attention quand même au Britannique qui va revenir. Le Britannique va revenir. Il vient de passer devant. Non, il est toujours devant. Allez Maxime, faut s'accrocher, faut aller chercher un podium. Allez Maxime, le Britannique est devant maintenant. Maxime Beaumont qui ne sera vraisemblablement pas champion olympique, mais c'est un podium.
Sur le moment, j'étais pas très content parce que je voulais gagner.
C'est une médaille d'argent pour Maxime Beaumont.
Là je vais voir. Là ce qui est sûr, c'est que je vais prendre un petit peu de repos dans les prochains jours.
D'abord c'est des filles bien, ça, il faut le souligner.
Vous aurez dit il y a un mois une médaille, on n'aurait même pas voulu savoir quelle couleur.
Allez, faut tenir, cette défense est là, elle se joue cette finale, cette chance pour les Françaises de revenir de cette partie. Si elles sont capables de stopper cette attaque, elles peuvent faire douter encore une fois une équipe russe. Elles l'ont fait contre les Espagnols. De toute manière, le tournoi est réussi, mais il reste encore 1 minute 30, il peut se passer des choses.
Le ballon qui va être rendu aux Russes parce qu'il y a une petite faute là d'Alison Pino. Et le
joueur très sympa, c'est les Russes qui crucifient peut-être les Français sur cette action là.
Pour revenir de deux buts, c'est quasiment impossible pour l'équipe de France. 45 secondes à jouer maintenant, les Russes bien sûr, qui vont gagner tout le temps possible. Il n'y a plus grand chose à faire de la part de l'équipe de France. Peut-être pas assez libéré dans cette rencontre, peut-être trop stressé.
C'est fini, c'est fini.
Ça fait 22-19, il reste 20 secondes.
C'est la Russie.
C'est la Russie qui va s'imposer, bien sûr. Il reste 8 secondes à jouer dans cette partie. La possession est française. Les Françaises qui vont attendre. Et que de toute façon, c'est un tournoi réussi pour l'équipe de France. C'est terminé dans cette rencontre. Les Russes qui s'imposent 22-19 face à la France. Mais c'est un tournoi réussi. Et c'est bien sûr ce qu'il faut garder. Elles sont abattues, les joueuses. Mais médaille d'argent, c'est historique.
On est vraiment très, très, très fiers de ce parcours. Maintenant, on était certaines qu'on était capable d'aller au bout de cette compète et d'aller chercher cette médaille d'or.
C'est la Britannique qui esquive, qui tente de faire des contres. C'est bien, elle est allée au taffé au plexus là. Sarah Ramona avec sa droite, elle va chercher le visage de son adversaire. Elle avance, c'est bien ce qu'elle fait. Allez Sarah, il faut pas lâcher. Il reste 15 secondes, c'est peut-être maintenant que tu es en train de remporter ton or olympique. C'est bien ce qu'elle fait. Elle est allée toucher de son adversaire. Sarah Adams, Nicolas Adams, qui semble marquer le coup dans cette fin de combat. Le direct du gauche, le direct du droit. Allez Sarah, il reste 5 secondes et puis on connaîtra la décision des juges. 2 secondes, on va entendre la cloche derrière moi. Ça y est, c'est terminé. Les deux boxeuses qui tombent dans les bras l'une de l'autre, l'arbitre de la rencontre qui va lever dans quelques instants le bras. Attention, ça va être le bras. Ah, c'est le bras de Nicolas Adams. C'est Nicolas Adams qui est championne olympique des poids mouches. Elle s'est inclinée, Sarah Ouramoun, dans ce combat. 39-37, finalement. La quatrième reprise a été à l'avantage de la boxeuse britannique Nicolas Adams, qui a, semble-t-il, fait mouche sur un coup.
Sur le podium, j'y ai pensé en me disant que c'était la dernière fois. Dernière fois sur un ring, dernière fois dans les vestiaires. Toutes les émotions, parce que c'est ça qu'on cherche. Hein. J'ose espérer que ça ne manquera pas.
Non, c'est la fin.
On est là. Oui, parce qu'en fait, notre petite production de médailles était terminée. On a entendu Maryse qui parlait de la présentation des filles du saut en hauteur, Maryse, car ça va démarrer avec quelques stars de l'athlé mondial qui sont là. Avant de retrouver Gladys Epang au taekwondo, on peut dire un mot. Il y a notamment la Croate Blanka Vlasic, les Croates qui, dans les concours féminins, sont redoutables ici aux Jeux Olympiques avec déjà deux médailles d'or. Là, il n'y a pas qu'elle, hein, il n'y a pas que Blanka Vlasic sur cette hauteur féminine. Nico,
elle n'est pas favorite, hein, Maryse Blanka Vlasic. Elle revient une grosse saison de blessure, opérée il y a 5 mois. Elle est revenue une extrémiste pour les Jeux. Elle n'a sauté qu'une fois cette saison, c'était à Londres le 23 juillet dernier. Donc c'est pas elle finalement la favorite, clairement.
Non, mais comme l'an passé d'ailleurs, hein, Blanka Vlasic, depuis quelques saisons, est en délicatesse avec sa cheville. Et normalement, elle ne devrait pas remporter de titre de championne olympique. Mais elle vient quand même très motivée parce que Blanka Vlasic, elle est arrivée deux fois en favorite aux Jeux Olympiques. Et deux fois, elle a raté ces Jeux Olympiques. Elle n'a jamais eu ce titre, Maryse, alors qu'elle a été championne du monde. Deux fois.
Gladys Epang est sur le tatami pour une médaille de bronze. Mais d'abord, il faut gagner ce premier combat face à une Népalaise, Pierrick Ten. Et ensuite, il y aura peut-être le bronze.
Et c'est super bien parti pour Gladys Epang qui a inscrit les trois premiers points de cette rencontre. On est dans la première reprise. Il reste une minute. Elle a inscrit un defensive kick body qui marque trois points. Il reste environ 50 secondes dans cette rencontre. Et si elle venait à s'imposer dans ce match de repêchage, eh ben elle pourrait disputer la médaille de bronze. On est dans la catégorie des lourds, les plus de 67 kilos. Et Gladys est beaucoup plus grande que son adversaire, 1,78 contre 1,68. Beaucoup plus forte également, 88 kilos contre 73. Il faut absolument qu'elle remporte ce combat si elle veut monter sur ce podium ici à Rio, devenir la deuxième athlète française de cette délégation de taekwondo à remporter une médaille. On rappelle qu'il faut toucher le plastron, qu'il faut toucher la tête. Si on le touche de manière simple, on marque moins de points évidemment que si on le touche d'une manière retournée. C'est pour ça que les athlètes changent de garde de temps en temps pour pourquoi pas tourner sur elle-même et aller toucher leur adversaire. 3-0 pour Gladys Epang qui mène dans ce combat alors qu'il reste une dizaine de secondes. On va attendre, on va s'observer, on va sans doute patienter jusqu'à la fin de cette reprise. 5 secondes, il restera ensuite deux reprises de 2 minutes pour Gladys Epang pour aller chercher cette finale vers la médaille de bronze. C'est terminé, fin de la première reprise. Epang qui mène 3-0 contre la Népalaise.
Bon, ça part très bien. Alors Gladys, elle a pas eu de chance au tirage parce qu'elle est tombée quasiment d'entrée sur cette grande chinoise là qui est la favorite de sa catégorie. Pascal Gentil nous en parlait la nuit dernière. Elle fait presque 1m90 cette chinoise. Évidemment, pour aller la toucher, faut y aller. Hein. Donc là, Gladys, pourtant, elle est pas petite.
La chinoise qui est en finale hein, d'ailleurs.
Hein, ouais, elle est en finale cette chinoise en l'occurrence. Et je crois que Maryse la connaît.
Non, c'est pas la chinoise que je connais, c'est Gladys. Effectivement, il faut une super allonge, mais Gladys, en plus, cette année, elle s'est donné un pari qui est absolument fou, puisqu'elle s'est fait une rupture des croisés cet hiver, en fait, il y a à peine 6 mois, normalement, enfin, il y a 7 mois, et normalement, il faut 7 mois à 1 an pour recommencer à s'entraîner. Et elle a fait une rééducation express, elle a eu une opération qui a été un peu, pas une première, mais tout à fait spéciale, parce que normalement, on prend un bout de muscle pour refaire les ligaments croisés, et elle, pour qu'elle puisse se réparer plus vite et ne pas toucher son intégrité physique, et bien en fait on a pris un tendon d'un donneur, voilà, donc elle a été greffée comme ça a très bien marché sa rééducation. Elle est restée très 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 longtemps en rééducation au CERS et elle y est retournée encore pour pouvoir finir sa préparation. Elle était donc 4 mois et demi après elle a commencé à combattre 4 mois et demi après son opération. C'est un truc de malade. Elle s'est esquinté le pouce lors de son premier combat, mais ça elle me dit je me suis peut-être pété le pouce mais c'est un petit souci, enfin bref.
Maryse, pour rappeler qu'elle avait raté les Jeux 2012 hein, également. Hein, donc,
exactement, pour une tuberculose, enfin l'équivalent d'une tuberculose osseuse qui n'avait pas été détectée, je crois, enfin une maladie.
Ça a touché pour la Népalaise qui revient à égalité. Elle aussi a réussi coup de pied qui marque 3 points pour la Népalaise qui revient à égalité dans cette rencontre. 3 partout, il reste 1,15 à jouer dans cette deuxième reprise. C'est dommage puisque Gladys Epang avait réussi un beau coup de pied retourné dans cette première reprise qui lui avait permis de prendre l'avantage. Mais là, elle s'est faite avoir par cette Népalaise qui est revenue au score alors qu'on est à la mi-combat, pile dans ce combat. Puisqu'il reste une minute dans cette deuxième reprise. Derrière, il restera une dernière reprise de 2 minutes pour faire la différence. Toujours 3 partout entre les deux jeunes femmes. Pour l'instant, Gladys Epang, 33 ans. Nisha Rawal, 20 ans. Tous les opposent, ces deux jeunes femmes qui vont tenter d'aller chercher ce combat pour la médaille de bronze. On est dans une situation d'attente. Pour l'instant, qui est-ce qui va lancer? Est-ce que Gladys va lancer avant la Népalaise? C'est la Népalaise qui avance timidement. pour l'instant, il n'y a pas grand-chose hein, du côté de Gladys Épangue dans cette deuxième reprise. Elle attend, elle se concentre, elle change sa garde, elle attend de voir si elle lance son pied au plastron à la tête. 25 secondes pour l'instant. C'est parti pour essayer de toucher ou pas? Non, elle n'a pas touché. Il semblait pourtant, elle avait regardé hein, la table de marque, elle avait regardé si son coup au plastron avait été comptabilisé, mais il n'a pas été compté par les arbitres. Toujours 3 partout. Il reste maintenant 10 secondes dans cette deuxième reprise. On va vraisemblablement attendre la fin de la deuxième reprise, à moins qu'une des deux athlètes ne décide de lancer une toute dernière offensive. Ah, ça y est, c'est timide du côté de la Népalaise. La réplique de Gladys, elle est timide également. Du coup, on en reste là. 3 partout à l'issue de cette deuxième reprise. Il reste 2 minutes pour faire la différence.
Très bien, on espère que Gladys Épangue va réussir à faire partir ses coups pour la faire passer dans ce combat décisif. Voilà, 2 médailles de bronze. Ce serait bien, Maryse, comme carrière pour Gladys Épangue aux Jeux Olympiques.
Mais ça serait exceptionnel parce que au-delà de ça, Gladys, multi-championne du monde, championne d'Europe, et encore une fois, par rapport à ce parcours complètement accidenté, on va dire, avec ces urgences de tuberculose osseuse d'enfance qui avait failli la mettre complètement KO. C'est-à-dire que ça n'était pas simplement que ça lui avait fait rater les Jeux de 2012, mais c'était que normalement, pour elle, le sport c'était fini parce qu'elle risquait d'y laisser sa peau, tout simplement, avec une fragilité qu'on lui a découvert dans la nuque. Sauf que Gladys, c'est une fille qu'on n'abat pas comme ça, qui ne s'arrête jamais, un petit peu comme Aya Sissoko, que je salue, que j'embrasse, notre championne du monde de boxe, qui a maintenant mis un terme à sa carrière, qui elle aussi a eu des vertèbres cassées, et qui d'ailleurs un film qui a été consacré,
hein, ah oui, j'ai vu.
Dambé, qui était extraordinaire, ouais. Interprété notamment la maman d'Aya Sissoko, qui était interprétée par Tatiana Rojo, que j'embrasse aussi. Voilà, on fait des bisous copines, hein, on en profite. Et c'est un peu le même genre, Gladys, c'est une Amazone. Elle n'arrête jamais. C'est vraiment une fille exceptionnelle, exceptionnelle, avec un palmarès exceptionnel en plus.
Allez, on retourne au combat, Maryse.
Une tronche incroyable et un sourire incroyable.
Trois partout. La dernière reprise. Il reste 1 minute 40 pour faire la différence, pour marquer un petit point. Ça suffirait hein, pour Gladys pour se hisser dans ce dernier combat pour la médaille de bronze qui aurait lieu dans une heure environ. Il faut absolument qu'elle touche la Française. Pour l'instant, toujours 3 partout. Il reste 1 minute 20 dans ce combat contre la Népalaise. Si elle ne s'impose pas, ça en sera elle aussi terminée de ses espoirs de médaille de bronze pour Gladys Épangue qui ne marque rien pour l'instant, qui attend. On est vraiment dans une stratégie d'attente hein, des deux côtés, que ce soit du côté de la Népalaise ou du côté de la Française. C'est vrai que c'est un sport aussi d'attente, ce taekwondo. Il reste une minute pour faire la différence, pour marquer un petit point. Ça pourrait suffire à la Française, la sortir du tapis, pourquoi pas. Ou ah, ça y est, c'est bon, un coup de pied au plastron pour Gladys Épangue qui touche et qui marque. 4 à 3 pour Gladys Épangue alors qu'il reste 47 secondes, Gilbert, dans ce combat. C'est la troisième et dernière reprise. Gladys Épangue qui va tenter de conserver son avantage. Si elle en marque un petit point en plus, ça peut être pas mal, hein, puisque elle se mettrait, pourquoi pas, à l'abri. Gladys Épangue, pour l'instant, qui mène toujours 4 à 3 contre cette Népalaise. C'est très serré entre les deux jeunes femmes. Attention Gladys, à ne pas se faire contrer. Ce serait dommage de perdre cet avantage alors qu'il reste seulement 27 secondes dans ce combat. Gladys Épangue, plastron rouge opposé à la Népalaise, plastron bleu. La Népalaise qui tente d'aller chercher Gladys au plastron, mais ça ne marche pas. 20 secondes encore à tenir et tu auras un dernier combat à Gladys à disputer pour aller chercher ce podium olympique, pour aller, pourquoi pas, récupérer une belle médaille de bronze, une nouvelle médaille pour la délégation française. On n'en est pas là, il reste 10 secondes. Gladys Épangue qui est toujours en tête dans ce combat. 5 secondes maintenant, si elle n'est pas touchée, elle s'imposera dans ce combat. Elle qui a marqué un premier coup tout à l'heure dans la première reprise. 4 à 3, c'est fini. C'est fini pour Gladys Épangue qui se qualifie pour un combat pour la médaille de bronze, Gilbert. Dans
Parfait.
Une heure environ.
Dans une heure, et on connaît d'ailleurs son adversaire, hein, une américaine, qui s'appelle Jackie Galloway. Voilà, Jackie donc Galloway. Si tu as plus d'infos sur cette américaine,
Jackie Galloway.
Tu nous tiendras au courant tout à l'heure.
Absolument.
Gilles est avec nous, 32-16, pour parler taekwondo. Salut Gilles.
Salut Gilbert.
Ouais, tu pratiques le taekwondo?
J'ai pratiqué quand j'étais jeune, maintenant je suis un peu plus vieux que toi, j'ai arrêté. Donc.
Mais moi, j'avais commencé, hein, cela dit.
Bon, d'accord. Non, par contre, moi, je suis, on va dire, je fais partie de ce qu'on appelle les puristes. Et là, ce qui m'a. Là,
y a du rythme. La vidéo, ça te saoule ?
Voilà, la vidéo, les trucs électroniques, il n'y a plus les coups portés comme avant. On voit que c'est beaucoup plus de la mesure stratégique au niveau des attaques et tout. Il n'y a plus le corps à corps comme on avait avant, quoi, à l'époque gentille et tout. Et ça, ça me déçoit, franchement. Moi, j'ai vu les premiers matchs. Comme j'ai dit à ton sportardiste, moi, je croyais voir l'inspecteur d'Eric au départ, quoi. C'était soporifique, quoi.
Là, hier soir on avait Pascal Gentil avec nous qui nous disait que lui ça le dérangeait pas et qui expliquait qu'en fait avec l'introduction de la vidéo le taekwondo a complètement changé puisqu'on a même inventé des nouveaux coups qui en fait ne touchent quasiment pas mais qui comptent grâce à la vidéo. C'est-à-dire que
oui,
fait,
mais...
c'est moi qui me bats contre la vidéo dans le foot depuis des années. J'ai toujours du mal. Quand tu te dis que l'introduction de la technologie change l'essence d'un sport, c'est quand même un peu bizarre, non?
Non, c'est pas ça, c'est que j'ai écouté effectivement Pascal Gentil hier, mais comme il dit, les coups sont moins portés. Le taekwondo à l'origine, pourquoi on met des plastrons et des casques? C'est parce que c'est un des rares sports de combat où on porte les coups. Il y a la force qui doit aller avec le coup. Et là, on voit, c'est beaucoup plus calculé. Alors maintenant, je remets pas en cause ce que dit Pascal Gentil, parce que je suis loin de son niveau, mais je veux dire, il y a plus le feeling qu'il y avait avant où on y allait carrément, quoi. Là, on voit, c'est beaucoup plus. Ils sont plus dans leur recherche de qu'est-ce qui va marquer des points avec l'électronique, quoi. C'est plus on va taper. C'est ça qui me gêne dans la nouvelle version. Et comme disait Morgan Maurice, ou si je me trompe pas, parce que la dernière fois je l'appelais Morgan Ferry, il disait le judo s'est adapté juste le judo s'est adapté au télévisuel. Le taekwondo, je trouve, a fait l'inverse. C'est devenu un sport qui est moins télévisuel maintenant.
Oui, mais en même temps, moi je me souviens de Pascal Gentil en 2000 à Sydney qui a crié au scandale d'arbitrage et voilà. En demi-finale parce qu'il estimait qu'il s'était fait voler. Moi je me souviens parce que j'étais là. Je fais l'interview et il arrive et il dit Pascal Gentil voulait l'or, il n'a que le bronze. Pascal Gentil reviendra plus fort. Et hop, il s'en va.
Non, mais génial. Là, effectivement, je suis d'accord. Il y a le côté humain, effectivement, Pascal Gentil, ça a été un scandale et tout. Alors, effectivement, il s'est fait voler la médaille.
L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, il y a moins de problèmes d'arbitrage. Voilà, c'est le seul avantage qu'on peut y voir.
Voilà, c'est ça. Mais par contre, télévisuellement parlant, parce que moi, je suis pas comme vous, je vais pas à Copacabana me baigner.
C'est
justement, j'allais préciser, il n'y a que Maryse qui est allée, Gilbert et moi qui ne sommes pas allés.
Ah non, il n'y a que Gilbert qui a arrêté, Nico et moi, on n'y a pas été.
C'était hier matin, Maryse.
C'était hier matin.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, vous avez raison d'en profiter.
C'est John, soit plus que nous.
Mais ce que je veux dire, c'est que moi, devant ma télé, ça me fait pas, sincèrement, ça me fait pas kiffer, quoi. C'est plus que moi, le taekwondo, c'est pas ça pour moi, quoi. On n'est pas là pour faire des caresses, c'est pas un ballet, quoi. Si je veux voir le lac des Signes, je vais à l'opéra.
Selon toi, ils font du air taekwondo, en fait.
Ouais, non, c'est ça.
C'est ça.
On fait des caresses. Il faut que le truc électronique, le contact au pied, touche le plastron, voire, et comme l'a dit Pascal d'ailleurs, effleure. Alors effectivement, ça a peut-être amené des nouveaux coups et tout. Mais moi, ce que j'aimais dans le taekwondo, enfin le TKD, c'est qu'on y va carrément, quoi. On porte les coups. Il faut que ça bouge.
Écoute, tu vois, moi je suis pas un grand spécialiste du taekwondo, toi tu as cet avis là, Pascal lui était de l'avis opposé. Voilà, chacun son point de vue en l'occurrence sur le taekwondo. En tout cas, on suivra tout à l'heure le combat de Gladys et Pang donc pour la médaille de bronze face à l'américaine Jackie Galloway. Merci à toi Eric, à très vite.
Allez.
T'avais un dernier truc à dire, vas-y, hein,
ouais,
c'est toi.
Juste un truc, je voudrais juste une confirmation, est-ce que effectivement le taekwondo sort des Jeux Olympiques à Tokyo?
Non, pas du tout. En revanche, Gilles, le karaté y entre à Tokyo.
Ah d'accord, c'est ça, ils font rentrer
donc
le karaté.
Donc il y aura judo, taekwondo et karaté.
D'accord, ok, voilà, c'était parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi le taekwondo sortait et qu'il faisait rentrer un autre sport, mais voilà. Eh bien, écoutez, ciao à tout le monde. Et puis, merci
salut, Gilles,
pour ce que
bientôt.
Vous faites. Allez, salut, ciao.
À bientôt, bye bye. Bon, donc on détaille maintenant ce son en hauteur féminin qui a démarré là qui est en cours et puis après on parlera javelot masculin avec Julius Yego le Kenyan et forcément un Finlandais puisque comme dirait l'autre dans un concours de javelot masculin il y a toujours un Finlandais.
Maryse, la finale du 100 hauteur que tu regardes avec attention évidemment, on va présenter un peu les favorites, les outsiders, celles qui veulent monter sur le podium. Il y a une américaine, hein, c'est Shanti Lowe.
Alors Shanti Lowe, c'est celle qui va sûrement ambiancer ce soir, la prof de danse, et qui est connue pour ça d'ailleurs. Après chaque saut, elle nous fait des numéros de danse. Elle est réellement prof de danse dans la vie. Et Shanti Lowe, qui a déjà fait 2 Jeux Olympiques, qui a été 2 fois 5e aux Jeux Olympiques, donc une concurrente de grande qualité, en plus d'un sourire, d'une plastique et surtout d'une humeur qui met tout le monde en joie. Et puis ma favorite à moi, c'est celle qui est en train de se concentrer d'ailleurs pour son premier essai à la barre suivante, parce qu'ils ont commencé très très haut, hein. Ils ont commencé à 1m88 et pas mal de jeunes femmes se sont fait peur déjà sur cette première barre, dont Blanca Blasich, mais pas Ruth Betia, l'Espagnole, qui pourtant est largement la plus âgée de cette compétition, la grande Ruth Betia, 1m91, qui a 37 ans, qui a remporté les championnats d'Europe cette année, qui est sur tous les podiums depuis plusieurs saisons, notamment sur les championnats en salle, et qui cette saison pourrait bien, pour la première fois, remporter l'or tout simplement olympique, avec sa grande expérience. Elle saute de mieux en mieux en fait. Plus les années passent, plus elle saute bien, Ruth Betia.
Ouais, elle a 1,98, 5 médailles mondiales, 3 championnes d'Europe consécutivement. Tiens, justement, elle va s'élancer dans un instant pour franchir une barre à 1,93 m. Elle est considérée, Ruth Betia, et peu de gens la connaissent, comme l'athlète espagnole la meilleure athlète espagnole de l'histoire, tout simplement.
Tout à fait, parce que
ça
fait vraiment longtemps qu'elle est là, Ruth. Je la connaissais déjà alors que moi j'achevais ma carrière, donc encore une fois, hein, c'est une jeune femme qui va avoir 37 ans. Voilà, ça passe sans aucun souci, 1m93, 1m98 cette saison, mais 2m02 en 2007, et je ne serais pas du tout étonnée qu'elle soit proche de son record personnel, parce qu'elle les veut vraiment. Elle qui a terminé au pied du podium, 4e des Jeux Olympiques en 2012, également 4e des championnats du monde en salle en 2008, et puis après ça s'est accéléré, parce que vous voyez, entre 2008, elle était déjà là, 5e des championnats du monde en salle en 2005, donc ça fait une immense carrière, 26 fois championne d'Espagne. Donc effectivement, elle a un peu de métier, au niveau national.
Peut-être en Espagne, mais rapidement, avant de revenir sur le podium, elle s'arrêtera à la fin de la saison. Donc si elle gagne,
dernière campagne.
Magnifique sortie.
Et puis il y a d'autres concurrentes.
Il y a Blanca Blasich, j'en ai parlé, Maryse.
Il y a une grande absente, évidemment, c'est Anna Chicherova, la Russe, qui n'est pas là pour les raisons que vous savez. Maintenant, vous en a abondamment parlé, étant donné que tous les Russes ont été n'ont pas été invités, on va dire, de ces championnats, à l'exception d'une seule au saut en longueur. Et c'était l'une des favorites de ce concours aussi.
Mais il y a une Française dans ce concours, on le rappelle quand même, cette finale du saut en hauteur, Maryse. Oui, il y a une Française.
Qu'est-ce que tu me racontes ?
Ah si, Marie-Laurence Jungfleisch. Mère française, père allemand.
Oh là là, comment tu récupères les gens ?
Mais excuse-moi, je suis pour Marie-Lo ce soir.
Comment tu récupères les gens ?
Marie-Lo, c'est la deuxième meilleure performance mondiale.
Écoute, deuxième meilleure performance mondiale pour Marie-Lo.
Oui, bah toi, c'est parce que tu viens de voir sa photo. Marie-Laurence, oui, c'est vrai qu'elle est vraiment très jolie. Oui, d'accord. Ok, alors on la double. Elle est française, ça y est.
En plus, Paul Naref a fait une chanson sur elle. Goodbye, Marie-Lo.
Voilà, donc Marie-Lo Jungfleisch. Mais non, là, je peux pas lui dire goodbye, parce que sinon, si tu lui dis goodbye,
Good luck, Marie-Lo.
C'est une jeune femme qui a fait parler d'elle chez les juniors, qui est là depuis longtemps. Elle aussi, elle domine un peu la scène en Allemagne depuis plusieurs saisons. Les Allemandes qui ont du mal à produire plusieurs jeunes femmes au 100 hauteur, eux qui ont eu tellement de très très grandes championnes, Heike Henkel pour ne citer qu'elle, ou encore Ulrike Meifert, double championne olympique, à 12 ans d'intervalle, donc ça n'est pas rien. Et c'est une jeune femme qui est finaliste régulièrement, mais cette année effectivement elle pourrait créer une surprise en s'invitant, pourquoi pas, près ou sur le podium. En tout cas, en qualification, elle a fait une forte impression.
Deuxième meilleure perf de l'année quand même, hein, avec deux mètres, Marie-Lo, notre Française de la finale du 100 hauteur. On va la suivre évidemment, parce qu'elle parle français aussi, hein.
Le podium du 4x100 dans quelques instants, il est en train de se mettre en place avec donc le Canada qui a remplacé hier soir tard les États-Unis disqualifiés, alors qu'ils étaient en train de répondre aux interviews, les Américains, ils étaient tous sourire. Et puis tout à coup, pam, c'est tombé, disqualifié. Et donc le Canada sur la troisième place du podium. Mais bien sûr, ce qui nous intéresse par ailleurs, nous, sur RMC, c'est l'équipe de France. Et aujourd'hui, Yohann Diniz s'est exprimé. Yohann Diniz, 24 heures après, sur 50 km marche, donc est venu là, à l'extérieur du village olympique, pour expliquer comment il allait, comment il avait vécu son 50 km, comment il avait vécu ses différentes défaillances. Et on va l'écouter. Il était également en direct sur RMC tout à l'heure. Alors, la polémique, bien sûr, était là, hein, ces dernières 24 heures. Certains disent, c'est le courage, l'abnégation, il va au bout de lui-même, c'est magnifique. physique. D'autres disent c'est totalement inconscient, il fallait l'arrêter, il s'est mis en danger, etc. Écoutez la version de Johan Diniz tout de suite.
Bonjour Johan. Bon, comment allez-vous au lendemain de ce 50 km marche épique?
Ah bah très bien, tout va bien, j'ai un petit peu mal au bras, mais sinon j'ai bien récupéré, ça va, on m'a bien pris en charge.
Alors vous savez que ce 50 km et ce que vous avez vécu hier a provoqué énormément de débats en France. Alors il y a ceux qui disent quel courage, quelle force, quelle détermination, et puis il y a ceux qui disent mais c'est de la folie, il fallait absolument qu'il s'arrête, c'est pas bon, c'est une mauvaise image du sport. Vous voyez, il y a un débat vraiment important là depuis 24 heures et on le relaye sur RMC. Vous teniez absolument à terminer.
Ben non, mais déjà je venais ici au départ déjà pour chercher une médaille. Après malheureusement j'ai vite été embêté et dès le 10e kilomètre par des problèmes intestinaux. Après ça s'est transformé par pas mal de pertes de sang pendant jusqu'au 30e kilomètre où je me déshydratais aussi complètement. Et puis après je veux dire non, je voulais rien lâcher. Après j'étais prêt à aller au combat, donc entre le 30 et le 40e je suis encore un petit peu lucide on va dire, et puis après du 40 au 50e je me souviens plus de rien, je sais même pas dans quel sens je marchais, où il fallait repartir, enfin où j'allais, mais après personne n'aurait pu me faire m'arrêter parce que je voulais absolument aller au bout, et puis une place de finaliste c'est pas rien non plus, donc je suis content quand même d'être allé chercher cette place de finaliste, et puis après ouais. Forcément j'encouragerai pas tout le monde à faire ça, mais après on est des athlètes professionnels pour la plupart, on se prépare, on s'entraîne plus de 40 heures par semaine, donc notre corps il est quand même habitué à aller loin, mais après c'est même plus ton corps, moi après c'est mon cerveau, voilà, forcément c'est l'encéphalo qui a fonctionné, qui s'est mis en mode guerrier. J'ai pas vous refaire ma vie, vous la connaissez tous, mais ouais. Il a tout le temps fallu que je me batte depuis que je suis petit, et voilà, j'ai ces ressources en moi pour aller chercher au plus profond de moi-même pour terminer. Mais après c'est aussi une c'est pas une médaille, mais c'est des plaisir. Super valeurs, et ça nous fait tout chaud au cœur, quoi, voilà. Donc voilà, si ça peut si ça peut servir de petit exemple, ben c'est très bien, mais après je suis heureux, voilà, d'avoir pu terminer, et puis finalement d'être à peu près remis sur pied.
Voilà, donc c'était donc ce matin hein, avec Johan. Je me suis un peu répété dans les questions là sur le débat, mais voilà, on a réentendu ça de façon un peu brute de Pomme. Maryse, il explique quand même clairement que voilà, pour lui, il a voulu aussi montrer que il faut aller au bout des choses quand on s'engage quelque part, quoi.
Oui, mais je crois que c'était d'abord à lui-même qui voulait montrer ça, et comme il le dit très clairement, personne n'aurait pu le faire arrêter. C'est vrai que c'est un débat qui a été très prolongé, hein. Tout le monde encore continue de dire c'est pas normal, on aurait dû l'arrêter, la décence. Il y en a même qui m'ont parlé de décence pour sa dignité, qui trouvaient que ça n'était pas digne de voir un homme avoir des diarrhées, avoir des saignements, avoir des choses comme ça. Sauf que il faut quand même savoir que la marche, et même le marathon, mais particulièrement la marche, ça arrive souvent. Donc à un moment donné, si on trouve ça indigne, c'est qu'on connaît un peu mal ce sport, parce que effectivement il y a le corps à un moment donné a des défaillances importantes. On a quand même réussi au bout de quelques années à éviter que les caméras de télévision se braquent sur ces défaillances, parce qu'il y a quelques années il y avait des choses.
On avait eu des choses.
Ah, ça a été le cas, ouais. Quand même, hein. Ah, oui. Parce que j'étais pas devant ma télé, moi.
Oui, oui. Non, on a vu les images.
Ça c'est anormal. Ça c'est totalement. Parce que moi c'est ça qui me. Ouais. Évidemment, les gens ne parleraient pas de dignité.
Après normal, Moi je suis pas forcément d'accord avec toi. Je veux dire, ça se passe. Je veux dire, pourquoi le cacher
Non, c'est pas ça. C'est que si tu veux suivre un athlète qui. Moi je te parle des images qu'on avait vues au dernier jeu où t'avais un athlète qui s'arrêtait et qui faisait signe de pas le filmer parce que il allait s'accroupir pour déféquer, ah, très oui, clairement, ça, là, et que d'accord. Le caméraman te le mettait en gros plan, et que voilà, tu vois ce que je veux te dire.
Voilà, quand Yann Diniz continue de marcher, il est en compétition et que tout le monde le voit prendre une éponge et se la mettre en gros dans son short.
Oui, bon, mais ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas.
Et que justement. La caméra derrière va derrière pour regarder ce qui se passe et qu'effectivement, comment vous décrire ça,
on le voit, on voit ce qui se
voit
passe.
Clairement que voilà, ça coule quoi.
Voilà, c'est ça.
Donc
oui, non, mais là, c'est pas tout à fait la même chose encore qu'effectivement, si on s'attarde sur ces images, ça devient voyeur. Tu vois, il y a une limite, c'est très ténu la façon qu'on a de passer du voyeurisme à l'actualité.
Oui, Marie,
il y a des choses qui sont de l'actualité, il y a des gros plans, des ralentis ou des façons.
C'est la même chose quand t'es caméraman, c'est un gros plan
sur quelqu'un qui est en train de vomir sur la ligne d'arrivée.
Ou sur la plastique d'une sprinteuse en gros plan, ou sur les fesses d'une sprinteuse qui arrive.
Mais Gilbert, nous sommes entièrement d'accord.
On condamne Vinicius, on condamne aussi.
Mais tu prêches une convaincue, et je crois que ça n'est pas la première fois que je le dis. Tu vois, quand tu as une jeune femme, par exemple, au son hauteur qui est en train de se concentrer, et qu'au lieu de montrer sa concentration, tu as un gros plan sur ses fesses, il y a un moment.
La portugaise, l'autre jour, au triple saut, qui était suivie comme son nom par une caméra pendant 3 heures.
Oui.
Tout ça parce que c'était la plus mignonne du concours. Je sais pas, c'est à ce moment-là.
Il y a des excès, mais par contre, là, on n'est pas dans l'indécence, tu es d'accord. On est dans l'excès d'un caméraman amoureux qui n'a pas vu que ça n'était peut-être pas la favorite.
On est en pleine nuit, et reconnaissons que voir une jolie fille, c'est plus agréable que voir un mec qui a la chiasse. Voilà, mais bon, n'empêche que c'est les faits, ça arrive pendant les épreuves d'athlétisme. C'est ces choses qui arrivent à Yohann Dini.
C'est ce que je te dis, c'est-à-dire qu'encore une fois.
Mais d'ailleurs, lui, on a parlé tout à fait librement.
C'est justement ce que je te dis. Pour les gens qui trouvaient que c'était indigne et qu'on aurait dû l'arrêter, qu'il y avait des choses qui ne se montrent pas et que un grand champion comme ça, on devait conserver sa dignité, il faut expliquer que ça fait partie, malheureusement, du 50 km marche. C'est comme ça. On va jusqu'au bout de l'effort et à un moment donné, le corps se met en pilote automatique au niveau de la tête, peut-être, mais malheureusement, les organes n'ont pas tous la même ténacité. Et puis voilà, il y a des défaillances. Tout simplement.
En tout cas, il va bien. Se tourne déjà vers d'autres objectifs. Il nous a parlé d'ores et déjà des championnats du monde de Londres.
Et quant à Tokyo, il en parlait avant Rio. Pour l'instant, il va encore réfléchir, mais il se pourrait bien qu'il soit également en 2020 à Tokyo. Et il aura 42 ans.
Je crois qu'il n'arrive pas à lâcher ce rêve olympique, Johan. C'est un truc de fou.
Mais ça lui plaît, ce qu'il répétait ce matin, parce que exactement, on lui a formulé la question comme tu viens de le dire à l'instant.
Ouais.
Il prend du plaisir, il en a pas pris hier évidemment, il nous l'a redit bien sûr.
Ah, il aime marcher,
il prend encore du plaisir à s'entraîner, et à concourir également, que ce soit des Europes, des championnats d'Europe ou des championnats du monde. Donc tant qu'il aura envie,
c'est la condition sine qua non. Tiens, un petit regard sur le saut en hauteur avec Ineka McPherson. Là aussi une fille assez spectaculaire qui est très suivie par les caméras.
Pas uniquement pour sa
plastique, mais parce qu'effectivement c'est un livre ouvert. Elle est tatouée pratiquement de la tête aux pieds, Ineka, qui a toujours été une fille complètement fantasque, qui ne cache pas son homosexualité, qui l'affiche même, qui en est très fière, qui porte effectivement non seulement des tatouages de la tête aux pieds, mais aussi effectivement un certain nombre de piercings, et puis qui est très spectaculaire quand elle saute. Elle est toute fine, c'est une épingle quasiment,
très puissante.
Je ne sais pas si elle se définit comme punk,
mais
en tout cas,
elle a des énormes anneaux dans les oreilles.
Je ne sais plus comment ça s'appelle, ce sont pas des piercings.
Il
se fait regarder un petit peu sur Twitter, je pense que ceux qui nous écoutent vont nous le renvoyer. Enfin, vous voyez, ces anneaux qui percent l'oreille très, très fortement, qui est très suivi d'ailleurs sur son compte Twitter et puis sur ses Instagram, parce qu'elle poste énormément de photos. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vue, cette jeune femme qui était aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, souvent dans la finale, mais rarement dans les 8 premières quand même.
Est-ce qu'on peut dire un mot également du javelot, s'il vous plaît? C'est un concours qui est toujours spectaculaire, parce que on le disait déjà l'autre jour là, au moment du décathlon, on voyait le Mikado géant. Là, au-delà, je crois que qu'est-ce qu'il nous a fait là, le premier concurrent qui vient de s'élancer là.
Trinidad et Tobago.
C'est pas encore mesuré, mais enfin, ils traversent quasiment le stade avec leur javelot. C'est impressionnant. Et il y a quelques personnalités qu'on connaît, notamment le Kenyan qui a donc appris le javelot sur YouTube grâce à des tutos. Bon, ça c'est pour la légende. Après, il a quand même eu des entraîneurs après. Hein, mais il a commencé comme ça en tout cas. Ouais. Julius Yego, il est là.
L'histoire, c'est marrant. C'est le première athlète kényan, champion du monde, donc c'était en 2015, hors course à pied. Voilà. Donc ouais. Jamais un kényan n'avait été sacré champion du monde hors de la piste.
Et dans cette finale du lancer du javelot, d'ailleurs, il y a aussi un garçon de Trinidad et Tobago. Là aussi, on n'en avait pas l'habitude. C'est celui d'ailleurs qu'on a vu lancer il y a quelques minutes. On n'avait pas l'habitude de voir des candidats Trinidad et Tobago sur cette épreuve. Keshawn Walcott, qui a quand même lancé à 88m68 cette saison. Donc là encore un gros concurrent qui était champion du monde junior en 2012. Donc un garçon qui fait parler de lui et qui amène les petites îles de la Caraïbe encore une fois sur le devant de la scène. Et là encore, Trinidad et Tobago, jusqu'à présent, on les connaissait plutôt sur le sprint que sur le lancer du javelot.
Bon, le favori, c'est un Allemand, hein, c'est Thomas Roller, hein, meilleur perf de la saison, 91m28. Mais Julius, il est là, il va bientôt s'élancer. Lui, le troisième meilleur performeur mondial de tous les temps. Le premier, il est pas notre ami hongrois d'ailleurs.
Il est tchèque.
Yann Zelesny, 80.
Alors, il y a un truc. Juste avant que je pose la question à Maryse, je le précise, c'est important. Vous écoutez RMC et il est 2h du matin.